Merci, bonjour à vous tous. Donc, peut-être en deux mots, le CLE, c'est une association collective humaine d'éco-construction et du bâti ancien. C'est une association surtout de professionnels et ouverte aux particuliers. Donc, nous avons fait un certain nombre d'actions vers le public en partenariat avec d'autres structures et des actions plus ciblées. Donc, vous avez une petite présentation au fond. Et donc, nous avons notamment le 7 mai, nous aurons une conférence qui rejoint un peu celle d'aujourd'hui sur la partie comment faire une performance thermique dans le bâtiment ancien en alliant éco-construction, économie d'énergie et respect du bâti ancien, avec des personnes qui viendront un peu de toute la France, des spécialistes dans chaque domaine. Alors, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, les enjeux climatiques, tout le monde en a entendu parler. Nous sommes sur Terre. La Terre, il y a le soleil qui nous chauffe. Il y a le soleil qui émet des rayonnements. Et puis, on a l'atmosphère qui fait une barrière entre ces rayonnements et nous, ce qui fait qu'on ne reçoit que la moitié des rayonnements du soleil. Puisqu'il y a une partie qui est rediffusée. Je passe un peu rapidement. Le réchauffement climatique, c'est justement parce que l'atmosphère se modifie et donc modifie les rayons qui remontent en fait. Donc c'est lié à ça, c'est qu'en fait la couche ici là, d'atmosphère, plus elle empêche les rayonnements solaires de repartir, plus la température va augmenter. Je fais un petit résumé rapide. Donc la conséquence, c'est une augmentation générale de la température au niveau de la Terre. Donc les experts du groupe international sur le climat, sur les évolutions du climat, nous prévoient. Alors il y a de la mesure qui a été faite. Donc vous voyez, dans les années 1000 jusqu'à 1900, on avait quand même une température qui était à peu près homogène et stable dans le temps. Et puis, on voit que depuis 1900, jusqu'en 2000, on a eu une augmentation de 0,5 degrés. Et puis, on voit que dans les années 2000, on regagne encore 0,5 degrés. Et donc, ce qui nous prévoit pour les années futures, en fonction des hypothèses et de notre comportement, c'est-à-dire si on va garder notre comportement actuel avec une augmentation des polluants, et de la production de CO2 ou si on va la diminuer, il y a des variantes entre une augmentation de 1 degré à 5,6 degrés. Donc ça, c'est dans les prévisions, les différentes orientations, hypothèses qui peuvent être émises donc par le groupe le GIC, qui est le groupement international sur les études du climat. Donc cette augmentation va avoir des conséquences. Donc, des événements extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents. On le voit, les tempêtes, les cyclones, des choses comme ça. C'est vrai qu'en France, on n'avait pas de grosses tempêtes avant. On en a eu une cette année, on en a eu une en 99. Ça semble, la fréquence se rapproche. On aura aussi des événements extrêmes, c'est-à-dire, ça ne va pas dire un réchauffement de la Terre avec une augmentation globale de la température chez nous. Ce n'est pas uniquement ça. Puisqu'en fait, nous, en France, on bénéficie de l'effet du Gulf Stream, qui est un courant marin qui nous amène de l'air chaud. Une augmentation globale de la température de la Terre pourrait amener à une disparition ou une modification de la situation de ce Gulf Stream, ce qui fait que nous n'en bénéficierons plus. Du coup, nous nous retrouverions avec le climat du Canada, c'est-à-dire des hivers froids et des étés chauds. Je résume un peu ce qui peut nous arriver. Donc tout ça, là on parlait plus sur la France que ça pourrait avoir, mais au niveau mondial ça génère d'autres problèmes. On a, mettons, au niveau du Sahara, une augmentation du désert conséquente tous les ans. Donc tout ça, ça peut amener des conflits entre les pays. Et d'autre part, ces variations de température dans les différents pays vont amener une variation des écosystèmes, et on le voit par exemple en France, la flore du sud-est monte tous les ans de quelques kilomètres. Donc petit à petit, on a des évolutions qui se déplacent. On a aussi une augmentation du niveau des océans. Et puis bon, les courants marins, du coup, ça perturbe et ça peut perturber le Gulf Stream qui nous protège et qui nous fait un petit climat tempéré dont on pourrait peut-être ne plus bénéficier à terme. Donc, ça, c'est un peu pour le contexte.
C'est moi qui fais la main.
Donc, la nature, alors la Terre, elle a une capacité de fixer de l'équivalent carbone. De 3 milliards de tonnes. Le problème, c'est que nous, l'humanité, on en produit 7 milliards en 1990, sachant qu'aujourd'hui, on est en 2009, la population a augmenté et l'industrialisation aussi. Donc, notre production est sûrement nettement supérieure à 7 milliards de tonnes aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on produit plus de 2 fois ce que la Terre est capable d'absorber. Puisqu'en fait, les plantes récupèrent le gaz carbonique et le transforment. Donc ça, c'est une capacité naturelle qu'a la planète de se régénérer. C'est juste qu'à un moment donné, quand on en produit trop, on dépasse ce que la planète est capable d'absorber. Et donc là, on crée un déséquilibre. Donc pour être en équilibre, il nous faudrait produire chacun 500 kg d'équivalent carbone par habitant et par an. Donc ça permettrait d'équilibrer tout le monde. Alors ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas très bien situés. Parce que par exemple, pour se chauffer, donc on parlera après tout à l'heure comment diminuer la consommation de chauffage. Pour se chauffer, 3000 litres de fuel par an, c'est équivalent à 2200 kg de CO2. Donc vous voyez déjà nos 500 kg, on les a bien mangés. Alors du coup après, il ne faut plus se déplacer. Quand on se déplace, vous faites 15 000 km par an avec une petite voiture, vous faites 850 kg par an de CO2. Si vous avez une grosse voiture, vous faites 3 000. Pareil, si on se déplace en avion. Alors après, quand on mange, suivant ce qu'on mange, ça change des choses. Mettons, si on veut construire une tonne d'acier, c'est 800 kg de CO2. Donc c'est vrai que les techniques écologiques, justement, l'idée, c'est d'utiliser des techniques qui consomment moins, qui produisent moins de CO2. Par contre, une tonne de bois, elle, a la capacité d'absorber 500 kg de CO2. Donc, il y a certaines techniques qui permettent d'améliorer, de diminuer ces choses-là. Alors, pareil, au niveau de ce qu'on mange, vous voyez, une tonne de pommes produite et distribuée localement, ça produit 15 kg de CO2. Par contre, une tonne d'orange qui vient de Tunisie, ça fait 1000 à 2000 kg de CO2. Donc, c'est le comportement de chacun qu'on peut modifier un petit peu pour contribuer à l'amélioration de la planète. Voilà un petit peu dans les informations générales. Alors après, les gaz à effet de serre, il y a différents domaines qui sont plus ou moins producteurs. Le transport, c'était 30%, mais ils s'améliorent, ils sont en tendance de diminuer. Ils étaient à 22% en 1990, ils sont passés à 29%, donc c'est un poste qui produit de plus en plus de CO2. Le bâtiment aussi en phase d'augmentation, vous voyez que le bâtiment c'est 25%, c'est un quart. Donc on l'a vu tout à l'heure, le post-chauffage est quand même une cause conséquence, c'est pour ça que cette journée est tournée autour de ce sujet. Et puis vous le voyez tous dans votre budget, si on peut diminuer la facture, ça arrangera à la fois la planète et notre porte-monnaie. Donc c'est pas plus mal. Après, l'industrie était aussi polluante, mais bon, elle tend à diminuer sa consommation. Alors que le bâtiment, jusqu'à présent, non. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de plans qui vont découler du Grenelle pour mettre des actions sur la partie bâtiment et la partie transport pour diminuer ces deux pôles qui étaient en augmentation. Donc dans le bâtiment, l'habitat est concerné en priorité, puisque l'habitat dans le bâtiment représente 70% des émissions des gaz à effet de serre de l'ensemble du bâtiment. Sachant que la consommation moyenne d'énergie des logements varie de 250 à 260 kWh par mètre carré par an, sachant qu'on dit qu'en gros c'est 25 litres par mètre carré par an. Donc vous multipliez en fonction de... Alors, la consommation d'énergie dans le secteur résidentiel, Donc, dans l'habitat, on voit que le chauffage, ça représente 55%, alors que dans le secteur tertiaire, dans tout ce qui est bureau et industrie, c'est 40%. Parce que ben, y a plus de monde dans un bureau, il y a des équipements informatiques, un certain nombre de choses qui font que ça chauffe et on a moins besoin de chauffer. La population au mètre carré est supérieure. Donc, si on regarde, par exemple, par type de propriétaire, la consommation d'énergie dans les bâtiments, les maisons de particuliers, vous voyez, ça représente 42% de la consommation d'énergie. Les copropriétés, c'est 14%. Et les logements HLM, ça fait 10%. Donc, quand on additionne tout ça, on est à 66% de l'énergie finale consommée par la partie habitation. C'est pour ça qu'on arrive à ces données-là. Donc c'est pour ça que l'économie de l'énergie dans le bâtiment est un point important. Sachant que, bon, tout à l'heure, vous parliez de la maison ancienne. Alors, ce que l'on appelle maison ancienne dans les textes et ce que maison paysanne appelle maison ancienne, ce n'est pas la même chose. C'est ça qui est important de préciser. Puisqu'en fait, ce qu'il y a sur mon graphique, les bâtiments anciens ici, ce sont surtout les bâtiments qui ont été construits entre les années 48 et les années 75-80. Ce sont ces bâtiments-là qui ont la plus forte consommation en chauffage, parce qu'en fait, ce sont des passoires, on les a construites très vite, et c'est là où on a la plus forte consommation. Par contre, sur ce que Maison Paysanne de France appelle le bâti ancien, le bâti en pierre, on n'est pas sur la même performance, on est plutôt autour de ce que consomment nos bâtiments neufs construits aujourd'hui. Hein, c'est l'étude de Baton et d'autres qui ont été faites sur la mesure du bâti ancien en pierre, démontre que la consommation est à peu près équivalente. Donc en fait, nos anciens, quand ils construisaient des maisons en pierre, avaient quand même une certaine logique, hein, une approche un peu bioclimatique qu'on tente de mettre en place, de systématiser dans le neuf, puisqu'en fait, ben, eux, ils ne mettaient pas d'ouverture au nord. Hein. Par exemple, on orientait quand même la façade vers le climat tempéré. Donc il y avait un certain nombre de choses qui étaient faites, il y avait du bon sens. Alors bien sûr, il y a des choses à améliorer, il y a des techniques qui ont évolué qu'on peut prendre en compte, mais il faut aussi capitaliser les bonnes pratiques du passé hein, pour en tirer des leçons et aller plus loin. Hein. Donc ça, c'est important. Donc les maisons qui consomment le plus, ce sont celles qui ont été construites entre 1948 et 1975-80. Ce sont vraiment ceux-là, les passoires énergétiques. Hein. Donc ça fait un budget quand même énorme en consommation de chauffage. Par contre, les constructions neuves sont entre 150 et 200 kWh par mètre carré par an. Donc, on nous dit 110, 150, mais bon, dans la réalité, quand on mesure, c'est pas tout à fait ça. Donc, par contre, à terme, on devra arriver à des bâtiments à énergie positive. Hein, c'est l'objectif du Grenelle de l'environnement autour de l'année 2020. Bon, ça, je vais passer un peu là-dessus. Donc, le principe, c'est... Première étape, c'est sobriété. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser? Deuxième étape, c'est voir si on peut avoir des équipements de production d'énergie efficaces. Et troisième étape, une fois qu'on a économisé au maximum, en isolant et en respectant le bâti, mais on verra, il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, on prend des équipements qui sont performants, qui ne consomment pas beaucoup, qui ont un fort rendement. Et après, dans ce qui nous reste, on va voir qu'on met des énergies renouvelables. Mais là, parce que si on met énergie renouvelable sans avoir rien fait, on n'a pas amélioré les choses. Parce qu'aujourd'hui, on sait diviser par 10 la consommation d'un chauffage d'un bâtiment. Alors, ça, quand même, ça change les notes sur la partie sobriété. Après, il y a quelques précautions à prendre quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, sachant qu'en France, on est un peu en retard par rapport aux autres. On a pris quelques années de retard, donc on est parti. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de voir un peu ce pour améliorer. Donc je vous repasse la parole peut-être.